petit philosophe dans le vaste monde. Une émission proposée par Bernard Ribal. Bernard Ribal, essayiste, agrégé et docteur en philosophie.
Douter de tout en se posant des questions à l'infini, nous conduirait à une absence de repères, à une confusion mentale, peut-être à la schizophrénie. Mais ne jamais douter de mes diverses convictions politiques, philosophiques, culturelles ou religieuses, ou bien alors refouler le doute qui de toute façon nous assaille, c'est se raccrocher désespérément à nos vérités autoproclamées, sans trop de raison, c'est être jaloux des repères qui nous identifient et nous rassurent, jusqu'à nous mettre en colère très agressive, comme celui qui ne se laisse pas mettre en question, et là peut-être jusqu'à la paranoïa cette fois-ci. Ce sont ceux sûrs d'être dans le vrai qui ouvrent les camps de concentration. Ceux qui doutent sont moins dangereux. La conclusion vient d'elle-même. Doutons, mais pas trop. Préservons nos convictions repères pour garder un sens à la vie. Non, réflexe fréquent, mais souvent stupide. Peut-on se contenter de sauvegarder une pensée confortable, mais peu réfléchie, simplement pour assurer notre équilibre mental à tout prix? Descartes, en 1637, invente le doute méthodique qui fait provisoirement table rase de toutes les soi-disant vérités issues des sens, touchés, mais aussi issues du raisonnement ou des traditions culturelles. La maîtrise cartésienne du doute est telle que Descartes n'hésite pas à répéter qu'il ne doute pas vraiment, mais qu'il feint de douter. Que, c'est lui qui le dit, le verbe feindre, qui en quelque sorte, il fait semblant de douter jusqu'à ce qu'il découvre la vérité indubitable, je pense donc je suis. Au XVIIe siècle, un autre Français, Blaise Pascal, donc même siècle que Descartes, constate, lui, que le doute n'est pas contrôlable, qu'il ne s'éteint pas. Pour Pascal, je cite, « le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie ». En fait, la vérité première de Descartes n'est pas comme il le croit, à savoir « je pense donc je suis », mais c'est plus précisément « je doute donc je suis ». Or, dans ce cas, il m'est difficile de passer du « je doute » à « je suis ». En effet, quand je doute, je suis en déséquilibre. Je ne peux alors pas me convaincre que je suis debout de pied ferme. Par le doute, je ne peux pas être confiant dans mon existence. Cette critique à l'encontre de Descartes est très pertinente quand on a lu Heidegger mort en 1976, malgré la réputation sulfureuse de celui-ci. Par exemple, dans « Qu'est-ce que la métaphysique ?», Heidegger montre que la conscience est un néantir. Un néantir, c'est-à-dire un anéantir, on pourrait dire, qui s'éprouve dans l'angoisse et non dans le triomphalisme de Descartes sur sa solide vérité. La solide vérité, je suis. Nonobstant, Pascal, bien que rongé par un vrai doute existentiel, découvre, lui, une certitude. Lui aussi, donc. Mais cette certitude pascalienne ne vient pas d'un glissement artificiel de la négativité du doute à la positivité du « je suis ». Elle est une révélation divine qui le transit dans sa nuit mystique de 1654, répertoriée dans son fameux mémorial cousu dans son manteau. « Certitude, certitude », s'écrit-il, « aucune place pour le doute ». Disons aussitôt qu'il y a plusieurs formes de doute et de non-doute. Il y a le doute factuel et le doute spirituel. Si je prétends affirmer le kérigme de la foi chrétienne, j'énonce des faits. Un homme appelé Jésus est mort et ressuscité il y a plus de 2000 ans, il est Dieu. Nous pouvons en douter, même si Jean Guiton, dans Mon Testament philosophique en 1997, écrit avec pertinence que les témoins, femmes et apôtres, sont crédibles. Ils sont crédibles car s'il s'agissait d'un canular, quelques-uns auraient, dit Guiton, vendu la mèche et arrêté la plaisanterie pour éviter d'être mis à mort comme de nombreux premiers chrétiens. Cependant, le récit évangélique est tellement époustouflant, Dieu est mort et ressuscité, qu'on a du mal à y croire, on doute. En fait, oui et non. Pour beaucoup, le doute s'estompe si je trouve au tréfonds de moi-même une résonance du récit tragique de l'Évangile, si je ressens intérieurement une vérité dans cette complicité complexe entre l'amour, la mort, la vie, le divin. D'ailleurs, avec le doute spirituel, le doute change de sens, il peut paraître positif. Doute spirituel et foi se conjuguent au lieu de sembler s'opposer. Ici, le doute ne doute pas vraiment de la foi. Ce doute spirituel est en fait le sentiment qu'on n'en a jamais fini avec la quête d'un toujours meilleur discernement de la foi. Ce doute n'en est pas vraiment un. En revanche, il est le contraire de la cédie. La cédie, cette lassitude éventuelle de la quête de Dieu, lassitude qui peut envahir certains religieux. Alors, ce pseudo-doute, le doute spirituel, est en fait une dynamique. Quel est donc le contenu de cette foi qui n'en a jamais fini de se chercher? La foi fait l'expérience du mystère et de l'absolu. Cette expérience qui perçoit et reçoit le divin, la foi est un don, n'est jamais achevée parce que l'absolu est infini et impensable pour les catégories humaines de l'entendement trop limitées. Le croyant est-il aux prises avec un problème? Non. Non, parce que il n'y a pas de problème. Je ne suis pas dans l'angoisse de chercher à résoudre une difficulté. Là, je suis dans l'expérience enthousiaste du mystère. Gabriel Marcel, 20e siècle, a bien expliqué cela. Dans le mystère, je n'ai pas plus de solution que dans le problème. Par exemple, pourquoi y a-t-il de l'être plutôt que rien? Pas de solution. Mais dans l'expérience mystique du mystère, je ne cherche pas de solution. Au contraire, je suis au-delà de toute connaissance, comme le répète Saint Jean de la Croix. Je m'exalte dans l'aventure spirituelle, l'ouverture et l'altérité du mystère. Je suis embarqué, comme dit Pascal. La liberté, cependant, sauve quand affleure le doute. La liberté, dans ce cas, est cette prise de risque que me fait prendre le dépassement du doute dans le oui ou non de l'accueil de la foi. Le doute spirituel, comme la foi, concerne des idées surchargées, des idées infiniment riches dont la raison ne vient jamais à bout. L'idée de Dieu en fait partie, mais pas seulement celle de Dieu. L'absolu ne se laisse pas enfermer dans un raisonnement, parce que raisonner, c'est mettre en relation différentes idées. Or, l'absolu, l'absolus, ce qui est par soi seul, sans dépendance d'autre chose, ne peut pas se résoudre en mots, en relation d'idées diverses. L'homme est limité, sa raison ne peut pas englober l'absolu dans un réseau de relations de mots et d'idées. Mais la foi, elle, elle le peut. Elle est une intuition, une perception spirituelle. Mais forcément, la raison qui veut développer en multiples raisonnements, en relations d'idées multiples, ne le peut pas, d'où le doute. Il ne s'agit pas que de la perception ou réception de Dieu. Cela concerne toutes les idées qui représentent des fins en soi. Par exemple, la beauté ne s'explique pas, et quand les philosophes veulent la définir, la beauté échappe à leur discours sur la beauté. Discours appauvrissant, en fait, de l'idée de beauté, qui est, je l'ai dit, une fin en soi. Une fin en soi ne s'explique pas. La beauté, c'est la beauté. On ne peut pas dépasser cette pauvre tautologie, sauf à s'adonner à l'expérience spirituelle, à la réception artistique de la beauté, en se gardant bien de chercher à la définir. L'intuition de la beauté est infiniment plus riche que tous les concepts de l'esthétique. Jean-Luc Marion, philosophe catholique, parle aussi de saturation, parle ainsi de saturation. Il y a saturation que lorsque l'intuition, c'est-à-dire la perception reçoit plus que ne peut en supporter le concept rationnel. Bref, le doute spirituel n'est pas un déni de Dieu et de la foi, mais la conscience que l'absolu, l'infini, la fin en soi de Dieu, est un au-delà de toute connaissance.
C'était Petit philosophe dans le vaste monde, une émission de Bernard Ribal.